Chapitre 22. À la suite de cet entretien entre les deux amants, un mieux sensible se produisit dans l'état de Courteheuse. On sut par Léon que les vomissements nocturnes avaient cessé, que l'appétit revenait, qu'il dormait bien. Enfin, à l'étude, il se montra d'humeur moins irritable, moins hargneux avec tout le monde, les clients comme ses clercs. Alors la Vaupalière écrivit une nouvelle lettre à son père, pour lui dire que les relations redevenant possibles avec son patron, il n'avait plus de raison de vouloir quitter Oissel. Si la confidence d'Hortense lui avait inspiré une horreur assez forte pour qu'il voulût se sauver, elle n'avait nullement tué son amour, et même, après la première surprise de l'effarement, elle n'avait fait que de le rendre plus violent en lui montrant comment et combien il était aimé. La passion qui va jusqu'au crime n'est pas ordinaire dans la vie courante. Si le crime l'avait épouvanté, la passion le flattait. Le cœur n'avait pas suivi la conscience, et maintenant que l'idée du crime était abandonnée, il n'allait pas faire le sacrifice de cette passion, ce qui, d'ailleurs, il le sentait maintenant, ne serait pas aussi facile qu'il avait imaginé lorsqu'il avait écrit la première lettre à son père. Comment partir ? Se séparer d'une femme qui, en somme, n'avait voulu être criminelle que pour lui ? En aurait-il jamais le courage, et ce prétendu courage ne serait-il pas en réalité une lâcheté? Au temps de sa vie d'étudiant, il s'était dit bien des fois qu'il romprait des liaisons devenues ennuyeuses ou gênantes. Et quand il se croyait bien décidé à cette rupture, il les avait continuées, retenues par cent raisons dont la force ne se révélait qu'au moment même de la séparation. Et cependant, il ne s'agissait alors que d'amourette, ne ressemblant en rien à la possession qui le dominait maintenant, comme il ne s'agissait que de femmes plus ou moins insignifiantes, ne ressemblant en rien à Hortense, et qui n'avait ni son charme vertigineux, ni sa séduction diabolique, ni tout ce qui la rendait irrésistible. Criminelle, oui, sans doute, elle avait voulu l'être. Mais encore fallait-il voir dans quelles conditions, surtout dans quel but, et reconnaître que lui-même était son complice. L'amélioration de la santé de Courteheuse fut donc pour lui un soulagement énorme. Plus de complicité, plus de responsabilité. À la vérité, il ne voyait pas trop quand et comment le rendez-vous reprendrait. Mais là-dessus, il n'avait qu'à s'en remettre à Hortense et à attendre. Quand elle pourrait lui donner sans danger quelques heures de nuit, elle l'en avertirait. Mais en attendant, ce qui se produisit, ce fut une rechute de Courteheuse. Il commença par être repris de lassitude, comme lors de sa première crise. Il lui devint impossible de rester debout, ses traits s'altérèrent, il maigrit rapidement, il eut des saignements de nez et la toux s'établit. Quand il était dans son cabinet, les clercs entendaient les quintes qui le secouaient. Qu'avait-il donc ? C'était ce que chacun se demandait, et la Vaupalière plus que personne, stupéfiée par cette maladie qu'il n'avait pas prévue. Était-ce l'ancienne qui se réveillait? Était-ce une nouvelle qui commençait et n'avait avec la précédente aucun rapport? Cette question pleine d'angoisse, il la tournait sous toutes ses faces, sans lui trouver des explications satisfaisantes. À mots couverts, il avait dans plusieurs lettres interrogé Hortense. Mais comme elle lui répondait dans le même style, il était resté avec ses doutes et ses incertitudes. Les seuls indices qui pussent jusqu'à un certain point l'éclairer tenaient au caractère même de la maladie qui différait de ceux de la première. Ainsi, les vomissements manquaient. Et pour lui, il n'y avait pas d'empoisonnement par l'arsenic sans vomissement. Classique, le vomissement, et puisqu'il manquait, on devait supposer que Courteheuse n'était pas empoisonnée, on devait même le croire. Pourquoi serait-il à l'abri des maladies de tout le monde ? Une causerie avec Benoît Gibourdel le confirma dans cette idée. De temps en temps, l'oncle venait déjeuner le dimanche à Oissel. Pour les déjeuners d'abord, que sa nièce lui faisait plantureux, et aussi pour surveiller le placement de ses fonds et voir s'il ne se présenterait pas une fructueuse occasion d'obtenir un gros taux d'intérêt sans trop de risques. La maladie de Courteheuse n'avait point interrompu cette habitude. « Pauvre neveu, pensez donc, faut avoir de ses nouvelles. Et puis, ça lui fait plaisir d'avoir à sa table une bonne fourchette. » Au contraire, les visites avaient été plus fréquentes, se répétant presque toutes les semaines. Un dimanche, la Vaupalière, qui quittait l'étude avant la fin du déjeuner et ne pouvait pas par conséquent le rencontrer par hasard dans le jardin pour le faire causer, alla l'attendre sur la route d'Orival, à l'heure du retour, bien certain d'être rejoint par lui à un moment donné, puisque c'était toujours ce chemin qu'il prenait. En effet, vers 4 heures, il entendit derrière lui le trot d'un cheval qui ne se pressait guère. Mais comme lui-même marchait d'un pas de promenade, il ne tarda pas à être rejoint par le bonhomme qui somnolait sur son cheval en digérant béatement son copieux déjeuner et ses glorias indéfiniment allongées. « Mais c'est monsieur la Vaupalière !» dit Benoît Gibourdel en mettant son cheval au pas. « Je vois que vous faites la promenade du dimanche. »«
Précisément. »
« Comme vous avez raison, faire travailler les jambes, il n'y a que ça. Je l'ai toujours dit à mon pauvre neveu. S'il avait voulu m'écouter, il n'en serait pas où il est. Comme c'est triste à son âge, monsieur la Vaupalière. »«
Vous le trouvez plus mal ?»«
Je me demande s'il s'en dépêquera. » Le v'là repris.
« Mais enfin, qu'est-ce qu'il a ? » ?»«
Sait-on jamais. C'était l'estomac, les intestins. Maintenant, c'est le poumon. »
L'estomac, les intestins, seraient donc guéris ?
Il semblerait.
C'est déjà beaucoup, dit la Vaupalière pour qui c'était tout, car il n'allait pas s'inquiéter de Courteheuse mourant d'une maladie de poitrine, bien au contraire.
Il tousse, continua Gibourdel, il crache, il mouche, ses yeux pleurent, il saigne du nez. Ah, il est bien mal pris.
Mais enfin, que dit le médecin ?
Il a encore vu vendredi en allant à Rouen et le médecin pense que c'est une mauvaise grippe.
C'est quelquefois une grave maladie.
Gibourdel secoua la tête.
Il y a autre chose, dit-il.
Et quoi donc ?
Eh bien, il y a que cette mauvaise grippe ne prend pas un homme en bonne santé, mais un malade, un homme affaibli, quoi.
Ah, mon bon monsieur la Vaupalière, vous veillez quelqu'un qui, dans ce moment ici, est bien tourmenté. Mon pauvre neveu, un si brave garçon !» Et s'attendrissant, Benoît Gibourdel tira son mouchoir à carreaux bleus et se moucha si bruyamment que son bidet en fit un écart.
« Et ma pauvre nièce, veuve, à son âge, c'est-il un malheur ?
Considérez-vous donc, monsieur Courteheuse, comme perdu ?
En danger, rien de plus, mais aussi rien de moins. C'est pourquoi j'ai dit à Hortense, faut faire venir le médecin. » Ne regarde pas au coût aimant.
Mais monsieur Courteheuse a consulté le docteur Annivelle en allant vendredi à Rouen.
Rouen n'est pas Oissel. Le médecin chez lui n'est pas le médecin chez nous.
Faut qu'on voie les médecins sortir de chez les malades. Ça se dit dans le pays, on en parle. J'ai expliqué ça à Hortense et tout de suite, elle a envoyé un mot d'écrit à monsieur Annivelle. Pour lors, il viendra demain ou après-demain. Et il entrera comme s'il passait par hasard, à seule fin de ne pas effouquer ce pauvre Courteheuse qui se deut déjà ben assez.
Et de quoi se plaint-il ?
De sa maladie, donc, et n'y a-t-il pas de quoi ?
Se voit-il en danger ?
Je ne le pense pas, et vous pensez bien que nous faisons ce que nous pouvons pour l'étourdir. Mais il se voit malade, il se voit détourbé de son travail, et dame, ça lui fait deuil.
La Vaupalière en savait assez.
« Il ne faut pas que je vous retarde, » dit-il.
« Personne ne m'attend et je suis bien aise de faire un bout de chemin avec vous, monsieur la Vaupalière, quand ça ne serait que pour causer de ce pauvre garçon que j'aime comme si c'était mon fieu. »
La Vaupalière connaissait peu l'oncle Gibourdel. Cependant, il savait que son faible n'était ni l'affection familiale ni la tendresse. Il convenait donc d'être attentif et sur ses gardes alors qu'il mettait ses sentiments en avant. Assurément, c'était pour quelque chose et non simplement par amour pour ce fieu.
« C'est-il pas douillant tout de même ? » dit-il après un moment de silence, qu'à la rigueur on pouvait prendre pour du recueillement. « De penser que toute jeune, on va quitter sa petite femme qu'on aime et une jolie femme, monsieur la Vaupalière. J'pouvons le dire entre nous, une femme de jour et de nuit, toutes les qualités, quoi ? Sans compter l'avoir présent et l'avoir à venir, qui ne peut pas lui échapper, puisque je suis garçon et qu'elle est ma seule héritière. »
Il s'attendrit encore, et son mouchoir fit une nouvelle apparition.
« Je n'aime pas parler de ces choses-là, monsieur la Vaupalière. C'est plus fort que mais, ça me versibule. Enfin, faut se faire une raison dans la vie. Je dis que dans l'état de Courteheuse, c'est triste de quitter les affaires quand elles vont bien. Car elles vont bien, n'est-ce pas, monsieur la Vaupalière ?
Mais certainement.
Oh, ce n'est pas une question que je vous fais, parce que vous savez, un curieux et Benoît Giboudel n'ont jamais passé par la même porte. Seulement, comme mieux que personne vous connaissez les affaires de l'étude, je dis comme ça, pensant à ma chère petite nièce, elles sont bonnes, hein ? Mais assurément, aussi bonnes que possible. Allons, tant mieux, j'aime vous entendre dire ça, parce que les notaires, au jour d'aujourd'hui... Il y a notaire et notaire. Bien sûr, pour lors, si un malheur arrivait, ma chère petite Hortense ne serait pas dans l'embarras de ce côté, n'est-il pas vrai ? Certes non. Et elle pourrait bien, n'est-ce pas, espérer vendre l'étude le double du prix qu'on l'a payé à M. Rotin ? Cela fut dit avec une bonhomie qui eût pu tromper quelqu'un qui n'eût pas connu Benoît Giboudel, mais qui mit la Vaupalière sur ses gardes. Évidemment, ce n'était pas l'un des propos en l'air, et chaque mot avait son but. « Il est certain, dit-il, que M. Courteheuse fait deux ou trois fois plus d'affaires que n'en faisait M. Rotin. Mais il faut distinguer entre celles qui appartiennent à l'étude et celles qui sont personnelles à M. Courteheuse à raison de ses relations ou de sa capacité. » « Je comprends ça, mais si le successeur était dans les mêmes conditions, ou à peu près, ça peut se trouver, n'est-ce pas ? Alors le chiffre des affaires ne baisserait pas. Enfin, qui vivra verra. Mais je ne veux pas vous entraîner trop loin, mon cher monsieur Lavaupalière. J'ai bien l'honneur de vous saluer. » Et après avoir serré la main de Lavaupalière chaudement, Benoît Giboudel mit son bidet au trot.